par la grâce de Dieu, dans quelques instants, le temps, ce grand pont entre le passé et l'avenir, puissant, solide et inusable, va nous transporter au seuil d'une nouvelle année que nous souhaitons égrener jour après jour dans la paix et sous la protection divine. Mais d'abord, remercions Dieu et nos chefs religieux de toutes les confessions qui ne cessent de prier pour le Sénégal et la paix sociale. C'est dire que je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. Chers compatriotes, je voudrais vous présenter à tous mes voeux de bonheur et de santé. Après cela, nous allons, comme à l'accoutumée, nous entretenir de certaines questions touchant à la vie de la nation. Alors que nous passons d'une année à l'autre, j'ai d'abord une pensée pieuse pour nos morts, et parmi ceux-ci, toutes les victimes civiles et militaires de la crise en région naturelle de Casamance, à toutes les familles endeuillées, sans distinction, dont nous partageons la douleur et la tristesse, je renouvelle les condoléances de la nation et l'expression de ma profonde compassion. Nous prions, chacun dans sa confession, pour tous les disparus, et nous nous en remettons au Tout-Puissant pour qu'il leur accorde sa grâce et leur réserve une place privilégiée au paradis. Aux blessés, aux malades, j'exprime mes sentiments affectueux et mon souhait ardent de prompt rétablissement. Je sais que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé récemment en Casamance, du fait de l'irrédentisme de certaines factions, alors que d'autres négocient avec nous pour rétablir la paix. C'est désespéré, sachant que le processus de paix entamé fait de grands progrès, tente de raviver le feu et s'attaque à notre armée, qui est plus en position de veille sur la paix et la sécurité des populations qu'en posture de guerre. Je veux que les populations se rassurent. Dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale de notre pays, nos forces armées continueront de veiller sans relâche sur la sécurité des personnes et des biens, quelles que soient les implications de l'exécution d'un si noble devoir. Et une fois de plus, je réitère la disponibilité du gouvernement à poursuivre le dialogue avec les MFDC pour une solution pacifique à la crise casamançaise et pour mettre en œuvre les mesures de réinsertion sociale en faveur de tous ceux qui acceptent de déposer les armes. Dans cet esprit, j'invite en particulier messieurs César Atoubayat, Salif Sayour et Ousmane Mientan Gata à nous rejoindre sur le chemin de la paix et de l'unité nationale. À cette occasion, je félicite les cadres casamançais qui se sont maintenant impliqués dans la recherche de la paix. Mais je remercie particulièrement le président Yaye Djamé qui, à ma demande, nous apporte un appui pour une paix rapide et durable en Casamance. Je pense aussi à nos voyants soldats déployés sur les différents théâtres d'opération des Nations Unies, servant avec courage et honneur la cause de la paix dans le monde. Je salue enfin nos compatriotes immigrés à l'étranger pour mettre courageusement leurs forces de travail au service de leur famille et de leur pays. Malheureusement, certains ont été victimes, ces temps derniers, de graves agressions racistes. Nous espérons que les criminels seront poursuivis et châtiés. En soutien aux efforts des émigrés, nous leur aménageons l'accès à l'habitat dans le cadre du programme Un émigré, un toit. Quelques centaines d'entre eux, voire milliers, ont déjà les clés de leur maison ou tout au moins obtenu des parcelles à inclure dans les programmes des promoteurs privés. Mes chers compatriotes, l'année 2012 s'annonce alors que le monde occidental traverse une crise économique et financière majeure sans précédent qui a débuté en 2008 aux États-Unis avec la crise des subprimes. Sous l'empire de la dette et d'un chômage rampant, certaines parmi les économies les plus prospères sont en train de vaciller. D'autres menacent de s'effondrer purement et simplement. Il est clair que si une crise majeure survenait en Europe, aux États-Unis, elle aurait des répercussions encore plus importantes sur nos économies, largement dépendantes de ces pays. C'est pourquoi il nous faut, plus que jamais, poursuivre nos efforts et solliciter nos intelligences pour relever les défis qui se profilent devant nous en faisant appel le plus souvent possible à notre imagination. Sur des questions essentielles, telles que celles touchant au coût de la vie et à la demande sociale, le gouvernement reste à l'écoute de toutes les initiatives pour rechercher des solutions concertées dans un cadre de dialogue élargi, regroupant les pouvoirs publics, les syndicats et les acteurs de la société civile. À l'instar de ce que nous faisions déjà avec succès au sein du Conseil présidentiel de l'investissement. La bonne nouvelle est que, malgré un contexte international morose, les fondamentaux de notre économie restent solides et notre taux de croissance, c'est-à-dire le niveau global de la richesse nationale, devrait même connaître une augmentation en 2012. Il en est ainsi parce qu'en plus de nos propres efforts, nous avons la confiance de nos partenaires publics et privés. En témoigne l'emprunt obligataire de 500 millions de dollars que nous avions lancé en mai dernier et qui a rencontré une offre de 2 milliards de dollars sur le marché financier international, pourtant si exigeant. Cet emprunt était, comme vous le savez, destiné à achever des projets d'infrastructure routière et poursuivre le redressement de notre secteur énergétique. Je sais, mes chers compatriotes, que pour changer qualitativement notre vécu quotidien, chacun de vous s'emploie à donner le meilleur de lui-même. En se livrant tôt le matin, en travaillant dur pour être utile à lui-même, à sa famille et à sa communauté. Cette force aspiration à une vie meilleure fonde ma confiance dans notre capacité individuelle et collective de réaliser notre ambition pour le Sénégal émergent. Cette ambition, le gouvernement la poursuit sans arrêt, suivant la vision que je lui ai assignée, voir grand, voir loin. Dans la définition et la mise en œuvre de politiques et programmes qui porte notre marche résolue vers plus de prospérité et de bien-être. Mes chers compatriotes, En abordant mon message ce soir, je n'ai pas l'intention de faire un bilan. Le bilan, il est là, il s'impose à la vue, se sent et se vit. Si j'empruntais ce chemin, cela nous prendrait trop de temps, et c'est pourquoi je me contenterai de ce que chacun d'entre vous en sait de ses réalisations en ville ou au village. Du reste, j'ai demandé à chaque ministre de se tenir prêt pour répondre aux questions des journalistes sur notre bilan, chiffres en main, et pour participer aussi à tous les débats. Mon intention est plutôt de vous dire vers quelle direction je souhaite engager notre pays, quels projets nouveaux, grands ou petits, sont en perspective. Quelles solutions j'entends apporter aux problèmes qui sont devant nous. En conséquence, je ne parlerai pas chiffres, sauf pour illustrer un propos. Dans mon message, je reprendrai à peu de choses près les secteurs du NEPAD, que nous appliquons d'ailleurs à l'échelle nationale et qui a donné de si bons résultats. Pour répondre à la question « Qu'est-ce que je compte faire demain, de nouveau, par rapport à ce qui existe aujourd'hui ?» Certes, terminer les chantiers existants, mais aussi en ouvrir de nouveau. Je ne parlerai pas ici, comme certains ont l'habitude de le faire, de projets virtuels, qui n'existerait dans l'imagination de leurs auteurs et de leurs bonnes intentions. Mais, encore une fois, je parlerai de projets dont nous avons quasiment le financement. Dans le secteur des infrastructures, nous notons la continuation des efforts. Car les infrastructures constituent les supports indispensables sans lesquels on ne peut envisager ni circulation des personnes, ni d'activité économique viable. Ils constituent les fondamentaux de l'émergence économique et de l'éradication de la pauvreté. Nous allons poursuivre l'achèvement des chantiers en cours largement entamés ou abordés de nouveau, dont les financements, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont acquis ou quasiment acquis. La route Madame Linger, sur 200 km, s'achèvera en 2013. Les corridors Passy, Sokoun et Nioro, frontière Gambie, j'ajouterai l'axe Thiès d'Urbel tout bas, qui a connu dans le passé plusieurs réflexions, mais c'était l'ère socialiste. Réflexions aussi éphémères les unes que les autres. J'ose espérer que cette fois-ci, avec notre nouvelle méthode, avec notre nouvelle conception de la route, elle survivra des décennies comme en Europe. Et j'ajoute, la route Thiorol-Toubatou-Khombol, le prolongement de l'autoroute vers Thiès et vers l'aéroport Blaise-Diagne pour aller jusqu'à Mbour, et pour nos frères de Casamance, j'annonce que nous allons entamer la deuxième phase de la boucle du Bouffe entre Tionkessil et Belengor. La route Kafrine-Ganda a déjà obtenu son financement ainsi que celle de Kapskiri à Djembereng. À ces chantiers s'ajoutent les travaux de réhabilitation du tronçon Djoum-Gourousseau de Bakel avec les quatre ponts de Matam, l'ancienne route de Rufisque et la route de Rufisque à Bambilor, Moro, Lompou, ainsi que le désenclavement de certains. certaines zones par la construction ou la rénovation de ponts. J'ai prescrit en outre le raccordement des grandes agglomérations enclavées aux routes nationales par des voies bitumées et la mise en place des réseaux d'autobus sur ces axes de désenclavement entre les villages de l'intérieur et les routes nationales. Je donne l'exemple de Cascas. Ses habitants auront bientôt la possibilité d'aller plusieurs fois de leur village vers la route nationale pour emprunter d'autres autobus, aller à Saint-Louis ou à Matam et revenir. J'ai demandé au ministre des Infrastructures de m'établir une carte des tronçons de raccordement de désenclavement. Dans ce sillage, nous pouvons, dans chaque chef-lieu de communauté rurale, aider un ou deux citoyens à se procurer deux véhicules minibus ou 4x4 pour le transport uniquement des habitants d'un point à l'autre de nos communautés rurales ou vers les voisins. J'en viens au grand projet de l'aéroport international Blaise Diagne, dont la construction devrait être achevée en 2012. Cet aéroport offrira à notre pays une plateforme de transport aérien de classe mondiale articulée à d'autres infrastructures et activités génératrices d'emplois et de revenus. En plus, bien entendu, de la reprise totale du personnel de l'aéroport Sédar Senghor. Rappelons que l'aéroport international Blaise Diagne aura un centre international de maintenance d'avions de toute catégorie, les compagnies étrangères connaissant la qualité des travailleurs sénégalais qu'ils apprécient beaucoup. Dans le secteur du transport terrestre, il se produit également une véritable mutation qualitative avec la mise en service de 410 minibus en 2011, tous montés au Sénégal, offrant ainsi de nouvelles facilités de liaison entre Dakar et la banlieue. J'en viens à notre société Dakar Dimbic. Nous avons un programme de 1000 minibus au total qui vont couvrir progressivement les régions de Dakar, de Durbel, de Kaolack, de Louga, Tambacounda, Zikachor. Et nous allons recevoir incessamment 220 bus, dont certains articulés ou qu'on appelle encore bus accordéon. Dakar Dimbic pourrait en bénéficier sous les conditions convenues. Toutefois, nous n'excluons pas de créer une deuxième compagnie de bus. Au sujet des transports, je viens de suggérer aux femmes d'affaires de créer une ou deux sociétés de transport interurbain entre les villes de notre pays avec des bus climatisés de bonne facture que nous avons déjà commandés. En effet, les hommes ont trop d'avance sur les femmes dans le domaine des transports. Les bus pourraient être à Dakar dans le premier trimestre de la nouvelle année. Je voudrais évoquer ici notre prochaine compagnie nationale, Air Teranga. En effet, après Sénégal Airlines, je suis heureux d'annoncer que 2012 verra le lancement de notre compagnie intérieure que nous appelons Air Teranga, pour assurer les vols domestiques entre capitales régionales, voire départementales, à des prix accessibles. Je ne veux pas, en effet, que la liberté de déplacement des Sénégalais proclamée dans notre Constitution soit en définitive entravée dans leur propre pays par des prix de transport aérien inaccessibles. Dans ce sens, nous sommes en train de finaliser l'acquisition d'avions mais il reste à construire les pistes et les aérogares. En matière de transport, je pourrais encore ajouter la création d'une flotte fluviale et des bateaux-taxis. Vous vous rappelez que nous avons acheté 4 bateaux-taxis pour faire la liaison Port de Dakar, Mbao, Bargny, Levisque et Saint-Lô. Il s'est avéré que, suite à une erreur d'appréciation technique, notamment sur l'ampleur du vol dans cet espace, nous avons préféré ne pas couvrir de risques et les redéployer sur le front Sénégal et sur le front Casamance. Et sur le front Sénégal, c'est l'OMVS qui devra construire les quais d'accostage. Le grand port de l'Atlantique dont je vous ai souvent parlé va bientôt ouvrir ses chantiers. Mais en réalité, il s'agit d'un conglomérat de plusieurs ports, mais reposant sur une conception unitaire. Il comporte en fait un port pour Dubaï, qui y installera des industries pour l'exportation, un port pour la Chine, un port minéralier lié au projet de la Falémée, sans compter la possibilité de diriger vers cet espace désormais les phosphates que nous exportons. J'en viens maintenant au transport ferroviaire. Le transport ferroviaire va s'enrichir de la ligne Dakar-Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne, parallèlement au transport terrestre. Nous venons de recevoir des rames réversibles climatisées pour améliorer le confort des usagers du chemin de fer. Nous avons aussi un projet d'un train ultra rapide sans chauffeur qui reliera l'aéroport Blaise Diagne à la capitale. Chers compatriotes, je vous ai souvent parlé d'un train moderne Dakar-Bamako en coopération avec la République sœur du Mali. Je voulais vous dire sur ce point que nous sommes très avancés dans sa conception en vue d'une réalisation en 2012 et 2013 en écartement standard. Enfin, dans le complexe mine de fer de la Falémée, qui a 3 composantes, vous vous en souvenez, l'État entend être propriétaire du chemin de fer de transport du minerai et aussi propriétaire du port d'exportation de Saint-Lô. Le montage de camions porteurs dont je vous ai souvent parlé est toujours maintenu, mais il a eu du retard du fait des difficultés à trouver un terrain à côté du nouveau port de Saint-Lô. Mais je dois ajouter qu'un groupe de Sénégalais vient de me contacter pour me dire qu'ils ont une assise financière très solide ainsi que des moyens technologiques en coopération avec la Chine pour créer aussi au Sénégal une usine de gros porteurs. J'en viens maintenant à l'énergie. S'agissant de ce secteur, les mesures de redressement dans le cadre du plan Chacun se poursuivent. Je sais que, malgré la nette amélioration que nous avons tous constatée, il y a encore de temps à autre quelques coupures occasionnelles d'électricité, mais ces coupures relèvent plutôt de la vétusté du réseau qui date de plus de 60 ans. La Sénélec s'attelle à résoudre ce problème en plus des efforts qu'elle déploie pour réduire les pertes durant le transport de l'électricité. S'y ajoute que la crise énergétique que nous avons connue était en partie due à une demande accrue en raison d'une activité économique 60. Avec l'application systématique de la procédure d'appel d'offres, la CNRL a baissé ses coûts d'approvisionnement en combustible et dispose pour la première fois de son histoire d'une marge sécuritaire de plus de 30 MW en moyenne. En outre, elle mettra en service en 2012 de nouvelles unités de production moins coûteuses pour remplacer les locations temporaires. C'est le cas, par exemple, de la centrale à charbon dont le financement est bouclé. Enfin, avec 9 projets en cours, nous avons pour objectif de porter à 15% la part des énergies renouvelables dans notre consommation d'électricité d'ici l'horizon 2020. Ajoutons qu'une première centrale solaire verra le jour en 2012. Et à ce propos, j'entends faire pénétrer les produits solaires domestiques dans le monde rural pour créer de meilleures conditions de vie, lampes d'éclairage, cuisinières, extraction d'eau, de puits ou de forage, avec réseau de distribution vers tous les villages. L'année 2012 sera donc très certainement, pour notre pays, celle de la montée en puissance du plan TACL, puisqu'elle permettra de consolider plusieurs actions décisives lancées en 2011. Je pourrais citer aussi la rationalisation progressive de notre politique d'approvisionnement en hydrocarbures à travers la réalisation d'économies. Le lancement d'un grand projet de stockage d'hydrocarbures d'une capacité de 1 million de tonnes au Sénégal, dans la zone de Saint-Loup, et la mise en place d'un mécanisme de couverture par rapport aux fluctuations d'un marché toujours instable, nous permettront de nous assurer une autonomie relative. L'acquisition d'unités de production d'électricité dont les procédures de contractualisation de sélection ont pu être lancées efficacement peut aussi être évoquée. Je dois ajouter le lancement effectif de grands projets de centrales à charbon avec la coopération internationale, ainsi que le renforcement significatif de notre réseau de transport et de distribution d'électricité à partir des ressources attendues de nos partenaires au développement. Ajoutons l'accélération de notre programme d'électrification rurale qui a connu un grand bond ces temps derniers. Enfin, l'assainissement financier de la CNRS et sa réorganisation opérationnelle vont lui donner une culture de jeunesse. Le développement de projets sous-régionaux en matière d'hydroélectricité fait aussi partie de ce programme qui comprend en outre la mise en œuvre d'actions novatrices en matière de gestion de la demande à travers l'acquisition de compteurs intelligents, de compteurs prépayés et la distribution d'un nombre important de lampes à basse consommation. Venons-en à présent à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les Sénégalais aspirent à vivre mieux. Vivre mieux exige d'abord la pérennisation de notre souveraineté alimentaire atteinte grâce aux efforts et sacrifices de tous par l'amélioration continue de nos performances. Nous poursuivrons sans arrêt la politique de modernisation de notre agriculture lancée avec la Goana par la mécanisation, la diversification et la permanence des activités agricoles en toute saison. Notre devise devient Baynor, Baynavet. Nous prévoyons ainsi des aménagements à hauteur de 165 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'autosuffisance en riz, en plus du plan REVA, retour vers l'agriculture, qui a réalisé 24 fermes agricoles, aussi le soutien à l'entrepreneuriat rural avec 1514 projets financés à travers le pays. Parallèlement, dans la zone sud du pays, nous avons aménagé 11 700 hectares, dont 1 200 hectares dans les aires de mangrove. Les efforts de modernisation seront poursuivis dans le sens de l'innovation avec le lancement de nouvelles variétés céréalières homologuées par l'ISRA et la mise en place d'un programme initial de 500 plateformes multifonctionnelles pour la transformation des produits agricoles. J'ai assuré le ministre de l'Agriculture de renforcer la compétitivité des filières de l'horticulture, de l'arboriculture, de la floriculture, qui sont d'importantes niches de revenus d'exportation. Sur ces spéculations, nous devons reconquérir des marchés, notamment européens, que nous avions gagnés il y a une vingtaine d'années, mais perdus par la suite. Je suivrai personnellement cette question. S'agissant de la campagne agricole 2011-2012, le gouvernement y a consacré 25 milliards de francs CFA pour l'achat de semences et d'intrants agricoles. Je me réjouis en outre du regain d'intérêt que suscite la filière arachidière sur la base du prix aux producteurs que nous avons fixé à 175 francs CFA le kilo au minimum. Puisque le cours monte très haut sur le plan international, nous aurions pu aujourd'hui laisser la concurrence étrangère acheter avec 200 francs CFA ou plus, ce qui ferait le bonheur des paysans. Mais nous avons pensé à nos huiliers qui nous affirment qu'ils risquent de ne pas être compétitifs sur le plan national et d'éprouver des difficultés de survivre. Pour le commerce de l'arachide et des autres produits agricoles, je veux que chacun comprenne que la politique du gouvernement reste la même. Il faut que l'argent de l'État orienté vers l'agriculture aille en priorité aux agriculteurs par une juste rémunération de leur dur labeur pour qu'ils puissent entretenir décemment leur famille, nourrir, soigner, éduquer leurs enfants. Je sais bien que les petites unités de production d'huile se plaignent des prix élevés. Il faut que nos compatriotes de ce secteur comprennent que je ne sacrifierai pas les paysans pour leur permettre de faire des bénéfices. La concurrence sera maintenue. Ceux qui ne peuvent pas survivre peuvent aller se livrer à d'autres activités. Mais il est indispensable qu'on s'installe dans un secteur pour vivre de rentes prélevées sur une autre catégorie sociale, en l'espèce des paysans. Le gouvernement peut même les aider à vendre leur usine et à changer d'activité. De toute façon, il n'y aura plus de pénurie d'huile au Sénégal. Les villageois font maintenant de l'huile d'arachide brute qu'ils mettent à la disposition des raffineurs. Cela leur permet de capter la plus-value qui leur échappait auparavant. J'ajoute que la Banque verte ou Banque des paysans, regroupée dans Diapono, verra le jour en 2012. Son capital est inscrit au budget de l'État. Des fonds sénégalais souhaitent y participer. Nous créerons dans les mêmes conditions une banque nationale qui nous manque tant. Nous attendons beaucoup de l'élevage qui pourrait être un des grands secteurs de notre pays. Du reste, nous avons lancé des projets régionaux de développement à hauteur de 47 milliards. À travers cette nouvelle approche, et l'insémination artificielle. Nous voulons faire de chaque zone concernée un pôle multifonctionnel intégré et cohérent, associant des infrastructures communautaires, notamment des forages, des puits pastoraux, des aires d'abattage, des parcs de vaccination du cheptel et des unités de transformation. Je tiens en particulier à l'intensification du programme spécial d'insémination artificielle et de production laitière. Malgré les efforts consentis avec 120 000 inséminations, nous avons l'ambition de mieux faire par la production de viande et de lait pour l'exportation, compte tenu de notre potentiel. Je viens de demander au ministre de l'Élevage de s'adresser au Brésil pour obtenir la reconversion d'un prêt récent qu'il nous a accordé pour l'accroissement et l'intensification de l'insémination artificielle. S'agissant de la pêche et de l'économie maritime, comme l'agriculture et l'élevage, le secteur de l'économie maritime et des mines gardent leur vocation de pilier essentiel de nos stratégies de développement. Avec l'installation de 15 complexes frigorifiques dans une première phase, nous voulons tirer le secteur de la pêche artisanale de la précarité en le dotant de moyens modernes d'exploitation et de conservation des produits pour une meilleure valorisation de nos ressources halieutiques. D'autres perspectives s'ouvrent également au secteur de la pêche. La filière thonnière sera relancée avec la reprise de la Société nationale des nouvelles conserveries du Sénégal, tandis que 4 programmes de gestion durable des pêcheries et l'achat de 4 volettes pour la lutte contre la pêche illicite et autres activités maritimes prohibées sont en phase de financement. S'y ajoutent les avancées qualitatives dans le domaine du transport et du fret maritime. Nous devons y ajouter l'acquisition prochaine de 2 navires pour renforcer la desserte des régions du Sud et le renforcement des capacités du port autonome de Dakar par l'extension du terminal à conteneurs et l'aménagement de la nouvelle gare maritime, entre autres installations modernes qui feront du port de Dakar l'un des plus attractifs pour la qualité de ses prestations. C'est d'ailleurs l'occasion de me féliciter des résultats obtenus par Dubai Port dans la modernisation du port du futur. Mais mon rôle le plus cher est que les Sénégalais se lancent dans la grande pêche avec des bateaux modernes. Le gouvernement est prêt à les soutenir. S'agissant du secteur minier, je me réjouis du nouvel essor qu'il connaît avec la mise en exploitation dès 2013 du zircon et du titane sur la Grande Côte, un site qui constitue la 3e mine du monde. Je vous avais un jour montré à l'écran ce produit noir qu'on trouve en abondance du côté de la résidence présidentielle. Sur une durée de 25 ans, le projet que je viens d'évoquer devra générer plus de 4500 emplois directs et indirects. En plus de la réalisation d'une ligne de chemin de fer Diogo-Meke-Tiwaon et de la réhabilitation de la voie Tiwaon-Dakar. Quant au projet de l'exploitation d'or à Gouloula et Massawa, leur démarrage est prévu respectivement en 2012 et 2013. Dans la mise en valeur de nos ressources naturelles, je tiens beaucoup au respect des normes environnementales et à la prise en compte des intérêts des populations locales en matière d'emploi, d'infrastructures et d'équipements au titre du programme social minier. C'est en ce sens que nous accueille favorablement les conclusions du forum civil sur les industries extractives. S'agissant de l'artisanat, j'ai l'impression que l'ère de l'artisanat d'art va s'ouvrir avec la généralisation du travail en fer forgé. La capacité des Sénégalais dans ce domaine a été saluée par les visiteurs de l'exposition internationale récente que nous avons organisée à Dakar. Simplement parce que le fer main n'existe plus en Europe du fait de la chèreté de la main d'œuvre, alors que les Européens préfèrent le travail fait main que le travail fait en usine. Nous allons nous attaquer à ce marché grâce à l'encadrement de spécialistes français. J'ai demandé aussi qu'on envisage la pénétration de l'immense marché américain malgré la forte présence de l'Asie qui exerce une sorte d'oligopole sur le marché des produits artisanaux aux États-Unis. Venons-en maintenant à l'environnement qui est devenu un problème majeur pour l'humanité et pour les pays africains. Nous allons renforcer ce secteur sur plusieurs plans. D'abord, la poursuite de la construction des éco-villages grâce à un nouveau financement qui s'ajoute au financement déjà acquis du Programme mondial de l'environnement. Deuxièmement, la poursuite de la construction de la Grande Muraille verte grâce au financement obtenu du Fonds mondial, mais aussi des engagements de la communauté internationale. Je dois dire aussi que l'environnement sénégalais va être amélioré par la récupération des immenses terres salées, jusqu'ici inutilisées, des embouchures de nos fleuves grâce à la coopération indienne. Chers compatriotes, je voudrais vous annoncer qu'en 2012, le Sénégal va se lancer dans la fabrication d'engrais organiques à la place des engrais chimiques qui entraînent toujours des dégâts dans la composition du sol et affectent les nappes phréatiques. En effet, une société privée sénégalaise va procéder au ramassage des ordures ménagères des déchets solides pour après sélection, retenir les matières organiques et en produire des engrais. Le tourisme pourrait avoir une grande vocation au Sénégal et c'est maintenant seulement que nos compatriotes semblent s'y intéresser. Bien sûr, certains étaient déjà dans ce secteur, mais le tourisme doit connaître une très grande ampleur au Sénégal. Et c'est pourquoi je me réjouis de voir les Sénégalais investir de plus en plus dans ce domaine et aussi dans le domaine de la gestion hôtelière de facture internationale. Le gouvernement vient de signer avec un groupe sénégalais pour la gestion de l'hôtel Méridien qui devient King Fahd de Palace, Soleil de Dakar. J'en ai informé Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al-Saud, gardien des deux saintes mosquées, puisque cet hôtel fut un don généreux de l'Arabie Saoudite au Sénégal. Nous avons accordé deux sites pour la construction d'hôtels sur la corniche à des groupes sénégalais. Dans le secteur social, je vais évoquer la santé, la promotion de la femme, l'éducation, la formation et le soutien à la jeunesse, qui restent assurément les meilleurs baromètres de nos succès. Au cours de la décennie écoulée, nous avons densifié le réseau des infrastructures sanitaires, en portant le nombre d'hôpitaux de 17 à 35. Celui des centres de santé, de 58 à 76. Alors que le nombre de postes de santé est passé de 817 à 1245. Le plateau médical s'est amélioré également et s'est enrichi de structures spécialisées en plus de nouveaux équipements de pointe déjà opérationnels ou en cours d'installation. Ces matériels modernes pourront ainsi traiter sur place certaines maladies qui nécessitent jusqu'ici des évacuations coûteuses à l'étranger. Évacuations hors de portée de la grande majorité des patients. Dans le même esprit, le gouvernement maintient les mesures de solidarité nationale dans le domaine de la santé, notamment le plan César pour la prise en charge gratuite des personnes âgées de plus de 60 ans, la gratuité des médicaments antituberculeux, des antirétroviraux et des ACT pour le traitement du paludisme. Je dois ajouter la gratuité des césariennes qui est déjà générale au Sénégal, ainsi que la subvention de l'insuline pour les diabétiques. J'ajoute la subvention de l'hémodialyse dont le coût de la séance a été ramené de 50 000 francs à 10 000 francs actuellement, pour être au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement lié à la santé en général, maternelle et infantile en particulier. Nous devons rester dans cette dynamique, renforcer nos ressources humaines, moderniser nos équipements, poursuivre nos politiques de prévention contre le VIH-Sida, le paludisme et les maladies infanto-juvéniles. L'approche de Bayonne-Bor, en pleine expansion, nous permet de réduire rapidement la mortalité prénatale et juvéno-infantile. Aux femmes qui m'écoutent, je voulais dire après l'entrée en vigueur de la loi sur la parité, j'ai donné des instructions pour qu'un accent particulier soit mis davantage sur le soutien aux activités économiques des femmes. C'est ainsi qu'en partenariat avec la Banque islamique de développement, un projet de développement de l'entrepreneuriat féminin à hauteur de 13 milliards de francs CFA viendra en 2012 en appui aux filières du microcrédit pour la transformation des produits agricoles locaux. Et grâce au projet Soukhari Djabot, 14 unités de transformation alimentaire générant plus de 1000 emplois et 14 banques céréalières villageoises seront installées prochainement. Ces nouveaux équipements s'ajoutent aux 946 moulins déjà distribué cette année pour alléger les travaux domestiques en milieu rural. L'importante question de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, emploi et sport, fera l'objet d'une attention particulière. La jeunesse, qui porte tous ses espoirs sur nous, pour le futur de la nation reste au cœur de nos priorités. L'éducation et la formation sont les deux voies par lesquelles l'État entend prendre en charge les jeunes. Nous avons généralisé l'obtention des bourses et ouvert un nouveau chantier de formation générale des jeunes pour leur ouvrir le chemin des activités économiques. Et aujourd'hui, les priorités sont nettement définies. Mesdames, Messieurs, dans tous les domaines d'activité, il nous faut engager des ressources humaines suffisantes et de qualité pour répondre aux défis du développement économique et social de la nation. En somme, pour bâtir le Sénégal de nos rêves, qui prend son destin en main avec détermination et confiance, nous devons non seulement penser à notre futur, mais penser notre futur et le réaliser par nous-mêmes. C'est là, en définitive, que se trouve la clé du succès dans ce siècle de compétition effrénée, où les lignes de démarcation entre les nations se dessinent dans le savoir, le savoir-faire, la rapidité, l'expertise et l'innovation. Voilà le sens des efforts soutenus que nous avons déployés pour faire passer en 10 ans les effectifs des enseignants de 27 000 à plus de 80 000 aujourd'hui dans le secteur élémentaire. Le nombre des collèges est passé de 220 à 912, celui des lycées de 48 à 156 et celui des universités de 2 à 5. En attendant le démarrage imminent des travaux de la deuxième université publique de Dakar à Diamniadio. À terme, notre objectif est d'implanter un établissement d'enseignement supérieur au moins par région pour tenir compte du rythme et de l'accroissement des effectifs étudiantins passés en 10 ans de 35 291 à plus de 105 000. Avec la revalorisation progressive du traitement du personnel enseignant, je me réjouis de savoir que nombre de Sénégalais exerçant à l'étranger reviennent de plus en plus pour servir leur pays. Cette nouvelle tendance confirme que nous avons fait le bon choix en investissant massivement dans l'éducation et la formation pour élever le niveau qualitatif de nos ressources humaines et donner ainsi à notre jeunesse, par son travail et son génie créateur, la chance de mettre ses talents inépuisables au service de nos ambitions. Comme je l'ai indiqué au Conseil présidentiel de l'investissement du 14 novembre, le gouvernement va mobiliser les moyens nécessaires pour la création d'un million d'emplois à l'horizon 2015. Dans cette perspective, je tiens à la mise en œuvre diligente des orientations issues du Conseil pour la rationalisation des organismes en charge de l'emploi des jeunes, notamment le Fonds national de promotion de la jeunesse, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes et l'Office national pour l'emploi des jeunes de la banlieue. Tout cela va être fusionné en une entité unique, dotée de moyens conséquents et d'une plus grande autonomie d'action. Le renforcement de la dotation de 800 millions de francs CFA au titre de la convention État-employeur privé pour la promotion de l'emploi des jeunes en appui au programme spécial destiné aux jeunes diplômés des facultés, écoles, instituts et ateliers artisanaux. J'y ajoute la mobilisation des jeunes dans le cadre d'un vaste programme agricole pour en faire des entrepreneurs de type nouveau, capables de gagner leur vie en milieu rural et de contribuer ainsi à la réalisation de nos ambitions pour la souveraineté alimentaire et l'exportation de produits agricoles. En somme, nous allons multiplier dans ce sens les programmes de Ferme Reva. Le sport. L'attention que nous devons à notre jeunesse porte également sur le sport comme facteur d'éducation et de promotion économique et sociale. Si le sport mérite des moyens importants que nous lui consacrons, il nous faut en même temps donner au sport, surtout le sport de masse, les chances de faire éclore des talents nouveaux dans toutes les disciplines. C'est pourquoi, en plus de la construction de l'arène nationale, la réhabilitation et la réalisation de stades régionaux, nous allons vers l'édification d'un grand palais des sports dédiée au basketball, au handball, au volleyball et aux arts martiaux. Je saisis l'occasion pour saluer les belles performances de nos sportifs, toutes disciplines confondues, au cours de l'année qui s'achève. J'exhorte notre équipe nationale de football. Après son brillant parcours en phase éliminatoire, à garder le même élan de générosité dans l'effort, de discipline et de combativité pour représenter dignement notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations. Le gouvernement veillera à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour une participation sénégalaise de qualité. Demain, j'encourage vivement l'équipe nationale olympique à rester mobilisée pour gagner son match de barrage d'avril qui sera à l'honneur de notre pays. Cher Lyon Olympique, une occasion historique se présente à vous d'inscrire pour la première fois le nom du football sénégalais dans les annales des Jeux Olympiques. Saisissez là pour votre gloire et la fierté de la nation. S'agissant du mouvement Navetan, je suis gravement préoccupé par la violence qui gagne de plus en plus ce milieu. J'en appelle notamment à tous, en particulier aux instances dirigeantes, pour un retour aux vertus cardinales de fraternité et de fair play. Chacun doit comprendre et accepter qu'au-delà de la compétition, le sport est d'abord une école de vie pour savoir perdre dans la dignité et d'égale valeur qu'apprendre à gagner. Venons-en maintenant à la presse. Un observateur du développement des libertés dans notre pays pourrait se contenter de regarder du côté de la presse. Des quelques rares feuilles en 2000, où il y en avait cinq quotidiennes. Aujourd'hui, l'offre est de plus de 25 quotidiens, en plus d'hebdomadaires, de mensuels et de périodiques. Il est vrai aussi, le ton en permanence agressif dénote, je crois, une période d'apprentissage et d'acquisition de la déontologie. Il est vrai qu'en raison de la forte concurrence dans le secteur, les journalistes ne trouvent rien d'autre que des titres accrocheurs, avec souvent un déphasage étonnant entre le titre de la première page et l'article qui le développe à l'intérieur du journal. Dans ce secteur, je voudrais souligner deux faits. Le projet de loi consensuel sur la presse entre le gouvernement et les représentants de celle-ci, passé sans difficulté, sans débat, sur ma demande au Conseil des ministres, ne rencontre pas l'assentiment des députés à cause du principe de la dépénalisation du délit de presse que j'y avais introduit. Nous allons devoir cependant avancer sur la seule cause qui empêche l'adoption du texte. Pour le député, le journaliste est un citoyen comme un autre. Il devrait donc répondre de ses actes, comme monsieur tout le monde, devant le tribunal pénal, au besoin. Je profite personnellement de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas de journalistes en prison au Sénégal, pas plus qu'il n'y a de détenus politiques. La question de l'amnistie fiscale demandée par les journalistes, c'est le deuxième fait que j'ai voulu souligner, car la demande d'amnistie fiscale pour cette catégorie de travailleurs qui croulent généralement sous les dettes et même éprouvent des difficultés pour payer les employés me paraît devoir être examinée avec bienveillance. Le projet a été adopté en cours.